Chapitre 8. Avant la tempête. Au matin, Ninevé se réveilla aux premières lueurs de l'aube, l'humeur très maussade. Elle aurait juré que du gros temps se profilait. Pourtant, un coup d'œil par la fenêtre lui montra un ciel certes encore gris, mais dépourvu de nuages. Encore une journée étouffante en perspective. Sa chemise de nuit trempée était froissée tant elle s'était tournée et retournée dans son lit. Naguère, elle pouvait se fier à son aptitude à écouter le vent. Mais depuis son départ de Deux-Rivières, son don semblait avoir faibli quand il ne l'abandonnait pas totalement. Attendre son tour pour faire ses ablutions n'améliora pas la disposition d'esprit de l'ancienne sage-dame, et pas davantage le compte-rendu d'Elaine sur les événements postérieurs à son départ du bureau d'Elaïda. Pour sa part, elle avait passé la nuit à chercher en vain Léane dans les rues désertes de Tarvalonne, où elle avait uniquement aperçu des pigeons, des rats et des monticules de détritus. Un vrai choc, tout ça. Car la ville avait toujours été d'une impeccable propreté. Pour que des ordures apparaissent dans le monde des rêves, il fallait qu'Elaïda ait totalement négligé la magnifique cité. Près du port du sud, Ninevé avait aperçu Léane derrière la fenêtre d'une taverne. Que fichait-elle là? Et quand elle était entrée dans l'établissement, elle n'y avait trouvé que des tables et des bancs récemment repeints en bleu. Si elle s'était écoutée, Ninevé aurait abandonné là ses recherches. Mais Mirelle s'acharnait sur elle ces derniers temps, et elle tenait à avoir la conscience parfaitement tranquille quand elle lui dirait qu'elle avait tout essayé pour remplir sa mission. Quand il s'agissait de détecter un mensonge, la sœur avait quelque chose comme un sixième sens. Histoire de gâter encore son humeur, en revenant de Telaran Riod, Ninevé avait trouvé l'anneau d'Elaine posé sur la table, la fille héritière dormant à poing fermé. S'il avait existé un trophée de l'effort inutile, l'ancienne sage-dame l'aurait remporté sans la moindre difficulté. Et maintenant, découvrir que Sheriam et les autres avaient failli se faire tuer. Furieuse, Ninevé alla jusqu'à foudroyer du regard l'innocent pinson dans sa cage d'osier.
« Elle croit tout savoir, » marmonna Ninevé. « Je leur ai parlé des cauchemars. Oui, je les ai avertis. Et hier soir, ce n'était pas pour la première fois. »
Bien sûr, les six sœurs avaient été guéries avant même son retour du monde des rêves, mais ça ne changeait rien. À un souffle près, tout ça aurait pu finir beaucoup plus mal. Simplement parce que ses sacrés Aes Sedai se croyaient omniscientes. Tirant sur sa natte tandis qu'elle la refaisait, Ninevé se compliqua amplement le travail, d'autant plus que le bracelet de la dame s'accrochait régulièrement à ses cheveux. En principe, c'était au tour d'Elaine de le porter, mais elle l'aurait probablement laissé accrocher à une patère. À travers l'artefact, Ninevé sentait de l'inquiétude, de la peur et par-dessus tout une formidable frustration. Marigane devait aider à préparer le petit déjeuner, et les corvées lui étaient encore plus insupportables que sa condition de prisonnière.
« Tu as réfléchi vite et bien, Elaine. Et tu ne m'as pas dit comment, alors que tu avais averti les autres. Tu as pu venir également dans le cauchemar. »
Toujours en train de faire sa toilette, la fille héritière frissonna.
« Ce n'était pas très difficile à comprendre. Un cauchemar de cette taille devait être combattu collectivement. Avec un peu de chance, les sœurs auront pris une bonne leçon d'humilité. Du coup, leur rendez-vous avec les matriarches ce soir ne sera peut-être pas une catastrophe. »
Ninevé hocha doctement la tête. C'était bien ce qu'elle pensait. Pas au sujet des Aes Sedai et de l'humilité, car ces femmes découvriraient l'humilité le jour où les vaches auraient des ailes, un jour avant les matriarches cependant. Mais Elaine, même si elle refuserait de l'admettre, s'était sûrement laissée piéger dans le cauchemar afin de sauver les autres. Pensait-elle que ne pas dissimuler son courage était une façon de fanfaronner? Ou ignorait-elle à quel point elle avait du cran? Quoi qu'il en soit, Ninevé était écartelée entre une sincère admiration et l'envie brûlante que sa compagne cesse, au moins une fois, de jouer les modestes.
« Je crois que j'ai vu Rand. »
Elaine en lâcha son gant de toilette.
« Il était là en chair et en os ?»
Selon les matriarches, c'était terriblement dangereux, car on risquait d'y perdre une partie de son humanité.
« Tu l'avais mis en garde contre ça, Ninevé. Depuis quand aurait-il une once de bon sens ?»« Je l'ai à peine aperçu. » Peut-être a-t-il touché Telaran Riod à l'occasion d'un rêve normal.
Une hypothèse très improbable. Apparemment, Rand défendait ses songes avec des tissages si puissants qu'il ne devait probablement pas pouvoir entrer dans le monde des rêves autrement qu'en chair et en os. Et il en aurait été ainsi, même s'il avait su marcher dans les rêves et s'il avait été en possession d'un anneau.
C'était peut-être quelqu'un qui lui ressemblait. Je l'ai aperçu sur l'esplanade devant la tour. Je devrais être avec lui,
murmura Elaine. Vidant sa cuvette dans le pot de chambre, elle s'écarta enfin pour céder la place à Ninevé.
« Il a besoin de moi. Il a besoin de ce qu'il lui a toujours fallu pour marcher droit. »
Marmonna Ninevée en remplissant de nouveau la cuvette avec le broc. Elle détestait se laver avec une eau ayant croupi toute une nuit dans un récipient. Au moins, celle-ci n'était pas froide. L'eau froide, ça n'existait plus en ce monde.
Oui, ce qu'il a toujours fallu. Quelqu'un qui lui flanque une bonne claque toutes les semaines. Même sans savoir pourquoi, parce que lui le saurait très bien. Et qu'il l'empêche de s'écarter du droit chemin. Ce n'est pas juste.
Dit Elaine en enfilant une chemise de corps propre.
Je m'inquiète sans arrêt à son sujet.
Quand son visage émergea du col de la chemise, elle semblait plus soucieuse qu'indignée, malgré ce qu'elle disait.
Je m'en fais même pour lui en rêve.
Dit-elle en décrochant une robe blanche d'acceptée d'une patère.
Tu crois qu'il passe son temps à s'angoisser pour moi? Eh bien, je suis sûr que non.
Ninevée acquiesça, même si elle estimait que les deux situations n'étaient pas comparables. Si on n'avait pas précisé où, on avait assuré à Rand qu'Hélène était en sécurité avec les Aes Sedai. Lui, comment aurait-il pu être loin du danger? Quand l'ancienne sage-dame se pencha sur la cuvette, la chevalière de l'âne glissa hors de son chemisier, pendant au bout de sa lanière de cuir. Non, Elaine avait raison. Où que soit l'âne et quoi qu'il y fasse, elle doutait qu'il pense à elle autant qu'elle pensait à lui.
Lumière, pourvu qu'il soit vivant, même s'il ne pense jamais à moi.
La possibilité que le champion l'ait oublié aurait assez énervé Ninevée pour qu'elle s'arrache sa natte, si elle n'avait pas eu les mains pleines de savon.
Même si tu veux rejoindre la Javert, tu ne peux pas te focaliser ainsi sur un homme. Qu'ont découvert les sœurs la nuit dernière?
Le récit s'éternisant, sans pour autant être stupéfiant, Ninevée finit par s'asseoir sur le lit d'Elaine afin d'écouter et de poser des questions. Les réponses ne lui apportèrent pas grand-chose. Il en allait toujours ainsi quand on ne consultait pas soi-même les documents. Savoir qu'Elaïda était au courant de l'amnistie décrétée par Rand était bien beau, mais que comptait-elle faire à ce sujet? Avoir la preuve que la Tour Blanche contactait des dirigeants pouvait être une bonne chose, si ça incitait le hall de Salidar à accélérer un peu le rythme. En revanche, la délégation envoyée à Rand par Elaïda était un problème. Sauf que le garçon ne pouvait pas être assez bête pour prêter l'oreille aux émissaires de cette femme, pas vrai? Les bribes de conversation qu'Elaine avait surprises n'étaient pas assez riches en informations. Mais pourquoi Rand avait-il mis le trône du lion sur un piédestal? Et que fichait-il lui-même avec un trône? Tout dragon réincarné qu'il soit, et car machin truc pour les aïels, Ninevée ne pouvait oublier qu'elle s'était occupée de lui quand il était enfant, lui flanquant des fessées chaque fois qu'il le fallait. Elaine eut fini de s'habiller avant d'avoir terminé son compte-rendu.
« Je te dirai le reste plus tard !»
lança-t-elle avant de sortir en trombe. Ninevée grommela, puis elle se vêtit sans hâte inutile. Ce matin, Elaine allait pour la première fois donner un cours à des novices. Une mission qu'on n'avait pas encore confiée à l'ancienne sage-dame. Mais si les novices lui étaient interdites, il lui restait Mogedienne, qui aurait bientôt achevé ses corvées. Hélas, quand Ninevée trouva la prisonnière, celle-ci avait les mains dans l'eau savonneuse, le collier d'argent de la dame paraissant incongru autour de son cou. Marigane n'était pas seule. Dans le lavoir, au milieu de grandes casseroles d'eau bouillante, une dizaine d'autres femmes s'échinaient sur leurs planches à laver. D'autres, plus nombreuses encore, étendaient la première lessive sur des cordes à linge. Mais une montagne de draps, de robes et d'autres vêtements attendaient leur tour d'être lavés. Mogadienne jeta à Ninevée un regard assez brûlant pour lui roussir la natte. À travers la dame, le flot de haine, de honte et d'indignation était assez violent pour dominer la peur pourtant toujours présente. La responsable du lavoir, Nildra, une femme maigre aux cheveux gris, approcha de Ninevée en brandissant comme un sceptre la pale de bois qui lui servait à remuer le linge dans les lessiveuses. Sa jupe nouée au niveau de ses genoux lui permettait de ne pas finir la journée tachée comme une souillon.
« Bonjour, acceptez, »
dit-elle.
« Je suppose que vous cherchez Marigane ?»
Un ton respectueux, avec cependant l'arrière-pensée que tout accepté, un jour ou l'autre, pouvait être affecté au lavoir pour une journée ou un mois, afin d'être dressé aussi durement que les filles de peine, voire plus encore.
« Désolé, mais je ne peux pas la laisser partir. Je suis à court de personnel. Une de mes filles se marie aujourd'hui, une autre s'est enfuie, et deux ont droit à des horaires réduits parce qu'elles sont enceintes. Mireille Sedai m'a dit que je peux disposer à mon gré de Marigane, mais je pourrais peut-être la libérer dans quelques heures. »
Mogadienne se redressa et voulut parler, mais Ninevée la réduisit au silence d'un regard et en tapotant le bracelet sur son poignet. La rejetée se remit au travail. Un seul mot de travers, par exemple une plainte hors de caractère avec la paysanne qu'elle semblait être, suffirait à lui valoir d'être calmé, puis à avoir rendez-vous avec un bourreau. Et dans ce cas, le sort de Nineveh et d'Elaine ne serait guère plus enviable. Du coup, l'ancienne sage-dame éprouva un soulagement sincère en voyant la prisonnière se remettre à l'ouvrage. En maugréant, certes. Ça ne comptait pas plus que le torrent de rage et d'humiliation qui se déversait de la dame. Nineveh se força à sourire à Nildra, lui répondit des banalités qu'elle oublia aussitôt, puis se dirigea vers une des cantines communes afin de prendre son petit déjeuner. Mirel, une fois de plus. Pour intervenir ainsi dans sa vie, lui en voulait-elle personnellement? Et gardée prisonnière Moghédienne, allait-il continuer à lui valoir des brûlures d'estomac? Depuis qu'elle avait capturé cette femme, elle se gavait littéralement d'herbes réputées efficaces contre l'acidité gastrique. Nineveh n'eut guère de mal à obtenir une bonne tasse d'infusion allongée de miel et un petit pain juste sorti du four, après quoi elle choisit de manger en marchant. Même à cette heure matinale, la chaleur était étouffante, le soleil levant déjà semblable à une boule de feu rougeoyante. Comme toujours dès qu'il faisait jour, les rues de terre battue grouillaient de monde. Glissant sur le sol plus qu'elle marchait, insensible à la chaleur et à la poussière, les Aes Sedai vaquaient leurs occupations, souvent suivis par leur champion, un loup au regard glacial qui tentait en vain de passer pour un animal apprivoisé. Les soldats étaient partout, marchant ou chevauchant par groupes compacts. Puisqu'ils avaient des camps, pourquoi étaient-ils autorisés à encombrer la ville? Agitant des bâtons en guise d'épée ou de pique, des gamins suivaient ces guerriers, les imitant en tout point. Croisant des novices en mission, des domestiques aux pas volontiers traînants allaient et venaient dans tous les sens. Des femmes charriant des paniers de linge ou des caisses remplies de miches de pain côtoyaient des hommes qui guidaient des chars à bœuf chargés de bois de chauffe ou qui portaient sur le dos des coffres des carcasses de moutons destinées aux cuisines. N'ayant jamais été conçue pour abriter tant de monde, Salidar avait tendance à craquer aux entournures. Nineveh continua à avancer d'un bon pas. Sauf quand elle enseignait à des novices, une acceptée était libre d'organiser sa journée comme ça lui chantait, pourvu qu'elle consacre la majorité de son temps à l'étude, seule ou sous la coupe d'une Aes Sedai. Mais si elle avait l'air de paresser, elle risquait d'être enrôlée par n'importe quelle sœur. Or, Nineveh n'avait aucune envie de gaspiller sa journée à aider une sœur marron à classer des livres, ni à copier des notes pour une grise. Pour être franche, elle détestait les travaux d'écriture. Tous ces claquements de langue désapprobateurs quand elle faisait un pâté, et ses soupirs accablés, parce que sa graphie était bien moins nette et précise que celle d'un scribe. Se frayant un passage dans la foule, Nineveh guettait Siouan et Léane, le regard sans cesse en mouvement. Folle de rage, elle était en parfaite condition pour canaliser le pouvoir sans l'intermédiaire de Moghédienne. Chaque fois qu'elle prenait conscience de la chevalière de l'âne, nichée entre ses seins, la même pensée traversait son esprit.
« Il faut qu'il soit vivant, même s'il m'a oublié. Lumière, l'important c'est qu'il soit vivant. »
Bien sûr, tout ça ne faisait rien pour améliorer son humeur. Si l'âne Mandragoran avait seulement envisagé de ne plus penser à elle, il verrait de quel bois elle se chauffait. Car il y avait de grandes chances qu'il soit vivant. S'il n'était pas rare qu'un champion périsse en vengeant son Aes Sedai, ces hommes-là n'étaient pas du genre à décliner un tel honneur, c'était impossible dans ce cas. En effet, l'âne n'avait aucun moyen de venger la mort de Moiraine, exactement comme si elle s'était brisée la nuque en tombant de cheval. L'âne Féar et elle s'étaient entretués, et il n'y avait rien de plus à dire. Oui, l'âne était sûrement vivant. Et pourquoi Nineveh se serait-elle sentie coupable de la disparition de Moiraine? Certes, l'âne était libre pour elle, depuis, mais elle n'avait rien fait contre l'Aes Sedai. Pourtant, sa réaction, en apprenant la nouvelle, avait été de la joie à l'idée que l'âne était enfin libre, pas du chagrin pour la défunte. Cette honte la poursuivait, la rendant encore plus furieuse. Soudain, elle aperçut Mirel qui descendait la rue en compagnie de Croy Makin, un de ses champions. Jeune, blond comme les blés et encore très fin, Croy n'en était pas moins aussi solide que l'acier. L'air déterminé, Mirel semblait parfaitement remise de ses émotions de la veille. Même si rien ne prouvait qu'elle la cherchait, Nineveh entra promptement dans le grand bâtiment de pierre qui comptait jadis parmi les trois auberges de Salidar. La grande salle commune avait été vidée puis réaménagée en pièces de réception. Les murs de plâtre et le plafond plus ou moins soigneusement rénovés, on avait accroché quelques tapisseries au mur et couvert de tapis le plancher presque plus fendillé mais toujours aussi réticent à absorber la cire dont on l'abreuvait. Quand on venait de la rue, la salle paraissait presque fraîche. Enfin, moins étouffante que le reste en tout cas. Pour l'heure, elle n'était pas déserte. Sa veste rouge brodée de fil d'or parfaitement tirée sur son torse, Loghain se tenait devant une des grandes cheminées éteintes. Arborant son châle aux franges bleues, l'indice que ce moment avait quelque chose de solennel, L'Elaine Akashi ne quittait pas du regard le faux dragon repenti. Très mince, l'air digne mais cependant capable de sourire à l'occasion, l'Elaine était une des trois représentantes de l'Aja Bleu au hall de la tour de Salidar. Le regard pénétrant, elle étudiait le public de Loghain. Deux hommes et une femme, tous trois aux cheveux grisonnants, resplendissaient dans leurs habits de soie. Lesté de bijoux comme les deux autres, un des hommes, presque chauve, portait une barbe coupée très courte, et sans doute pour compenser, une très longue moustache. Arrivés la veille avec chacun une escorte impressionnante, ces puissants nobles altariens se méfiaient autant les uns des autres que les Aes Sedai qui levaient une armée dans leur pays. En matière d'allégeance, les altariens se vouaient à un seigneur, à une dame ou à une ville, et il ne leur restait en vérité guère de loyauté pour leur nation. Très peu d'entre eux payaient des impôts, et moins encore accordaient d'importance à ce que pouvait raconter la reine dans son palais des Boudards. En revanche, une armée sur leur terre, voilà qui leur déplaisait. Et seule la lumière savait comment ils avaient réagi aux rumeurs sur les fidèles du dragon. Pour le moment, au moins, ils évitaient de se regarder en chien de faïence et ne défiaient pas les lignes des yeux. Fascinés comme par une vipère géante, ils restaient concentrés sur Loghain. Histoire de boucler le cercle, le champion de l'Elaine au teint cuivré observait à la fois Loghain et les trois visiteurs. Ses traits burinés semblant sculptés dans une souche fraîchement déterrée, ce gaillard était capable de passer à l'action en une fraction de seconde. Plus que pour surveiller Loghain, venu à Salidar de son propre gré après tout, il était là pour le protéger de ses visiteurs et lui épargner de finir avec un couteau dans la poitrine. De son côté, Loghain semblait ravi d'être le centre de l'attention. Grand, ses cheveux bouclés cascadant sur les épaules, d'une incontestable beauté malgré la sévérité de ses traits, il paraissait aussi fier et aussi confiant qu'un aigle. Mais c'était l'éventualité de se venger qui faisait briller son regard. S'il ne pouvait frapper tous ceux qui l'auraient mérité, selon lui, il aurait au moins quelques cibles.
« Si ce rouge m'ont découvert à Koh Samel, environ un an avant que je me proclame dragon réincarné. Leur chef se nommait Javindra, et celle qu'on appelait Barasin n'avait pas la langue dans sa poche. J'ai entendu mentionner le nom d'Elaïda, comme si elle avait été informée de ce que faisaient ces femmes-là. Je dormais quand elles me sont tombées dessus, et quand elles m'ont isolé de la source, j'ai cru que ma dernière heure était venue.
« Aes Sedai !»
s'écria soudain la femme. Massive, le regard dur, elle avait sur la joue une balafre que Ninevé trouva incongrue chez une femme. Les altariennes avaient la réputation d'être violentes, certes, mais il devait y avoir pas mal d'exagération là-dedans.
« Aes Sedai ! Comment son récit peut-il être vrai ?»«
Je n'en sais rien, dame Sarena, » répondit l'Elaine, très sereine. « Mais ça m'a été confirmé par une personne qui ne peut pas mentir. Il dit la vérité. »
Sarena ne scia pas, mais elle serra les poings dans son dos. Un de ses compagnons, pas le quasi-chauve, mais l'autre, avait glissé les pouces dans son ceinturon pour paraître à l'aise, mais les jointures de ses doigts étaient blanches de crispation.
« Comme je le disais, » reprit Loghain, souriant, « elles m'ont découvert et laissé le choix. Mourir sur le champ ou accepter leur offre. Une alternative que je n'attendais pas, mais qui ne me demanda pas une intense réflexion. » Elles n'ont jamais dit qu'elles avaient déjà recouru à cette façon de faire, mais elles agissaient avec une assurance qui le laissait penser. Elles ne m'ont pas non plus révélé leur motivation, mais avec du recul, ça semble évident. Appréhender un homme capable de canaliser n'est guère glorieux. En revanche, vaincre un faux dragon...
Ninevé fronça les sourcils. On eût dit que Loghain parlait d'une partie de chasse quand il était décontracté. C'était pourtant sa propre chute qu'il évoquait. Et chaque mot enfonçait un nouveau clou dans le cercueil d'Elaïda, et peut-être bien de tout l'Aja Rouge. Si les Sœurs Rouges avaient poussé Loghain à se proclamer dragon réincarné, pouvaient-elles avoir fait de même avec Gorin Rogad ou Mazrim Taïm? Voire avec tous les faux dragons de l'histoire? Ninevé aurait cru voir les idées qui s'égrenaient dans l'esprit des altariens, comme les roues d'un moulin, tournant de plus en plus vite.
Pendant un temps, elles m'ont aidé à éviter toutes les autres Aes Sedai. Quand il y en avait une non loin de moi, c'était rare à l'époque. Elles m'envoyaient un message. Après ma proclamation, quand des partisans ont commencé à me rejoindre, elles m'ont fait savoir où étaient les armées du roi et combien d'hommes elles comptaient. Sinon, comment aurais-je systématiquement su où et quand frapper?
Réagissant au sourire cruel de Loghain autant qu'à ses propos, les trois nobles s'agitèrent nerveusement. Loghain haïssait les Aes Sedai. Ninevé en aurait mis sa main au feu suite aux rares occasions où elle avait pu étudier cet homme. Depuis le départ de Mine, elle n'avait plus eu le temps. Et elle n'avait pas glané grand-chose lors de ces quelques séances. Au début, elle avait pensé que s'intéresser à Loghain lui permettrait d'aborder le problème sous un angle nouveau. Après tout, la différence entre les hommes et les femmes n'était jamais aussi marquante que lorsqu'on abordait l'usage du pouvoir. Mais c'était pire que regarder dans un trou noir, parce qu'il n'y avait rien, pas même le trou. De plus, fréquenter Loghain était hautement déstabilisant. Chaque fois, il l'avait scruté avec une intensité brûlante qui l'avait fait frissonner. Même si elle se savait capable, au moindre geste menaçant, de l'envelopper de pouvoir en un clin d'œil. Cette intensité n'avait rien à voir avec la ferveur qu'on trouvait souvent dans le regard des hommes dès qu'ils le posaient sur une femme. Non, c'était une sorte de mépris circonscrit à ses yeux, car ça ne touchait jamais son visage, et d'autant plus terrifiant qu'il en restait toujours là. Les Aes Sedai avaient à jamais coupé Loghain du pouvoir de l'unique. Si quelqu'un lui avait fait ça, Nineveh imaginait très bien ce qu'elle aurait éprouvé. Mais il ne pouvait pas se venger sur toutes les sœurs. En revanche, il était en mesure de détruire l'Aja Rouge, et il semblait bien parti pour le faire. C'était la première fois que trois nobles venaient en même temps, mais chaque semaine, ou presque, une dame ou un seigneur, traversant l'Altara après être parti d'aussi loin parfois que le Murundi, venait écouter Loghain. Et tous repartaient stupéfiés par ce qu'ils avaient entendu. Rien d'étonnant, à vrai dire. Aucune nouvelle n'aurait pu être plus ahurissante, à part si les Aes Sedai s'étaient décidés à reconnaître l'existence de l'Aja Noire. Bien entendu, elle n'était pas prête de le faire, publiquement en tout cas. Pour la même raison, elle se montrait relativement discrète au sujet de Loghain. L'Aja Rouge s'était bien comporté comme il le disait, mais ses membres restaient des Aes Sedai, et bien trop de gens étaient incapables de distinguer un Aja d'un autre. Les récits de Loghain étaient donc réservés à quelques privilégiés, choisis en fonction du pouvoir de la maison qu'il dirigeait. Ainsi, les maisons en question soutiendraient les Aes Sedai de Salidar. Peut-être pas ouvertement, mais ce n'était pas l'essentiel. Et au pire, elles se détourneraient de l'Aïda.
Javindra m'avertissait que les Aes Sedai qui me traquaient approchaient de moi. Elles m'indiquaient leur position, afin que je puisse les attaquer par surprise.
Le visage sans âge et serein de Lelaine se durcit imperceptiblement. D'instinct, Bourine porta la main à son épée. Avant que Loghain soit capturé, beaucoup d'Aes Sedai avaient péri. Le faux dragon ne sembla pas remarquer ses réactions.
L'Aja Rouge ne m'a jamais abusé, avant la trahison finale.
L'homme barbu regardait Loghain avec une telle fixité qu'il semblait évident qu'il luttait contre l'envie de détourner la tête.
Aes Sedai, qu'en est-il de ses partisans? Il était peut-être bien gardé à la tour, mais il a été capturé pas si loin de l'endroit où nous sommes. Assez près, pourrait-on même dire. Ils n'ont pas tous été tués ou faits prisonniers,
répondit l'autre seigneur.
La plupart ont réussi à fuir, puis ils se sont fondus dans le décor. Je connais l'histoire, Aes Sedai. Les partisans de Raoulin Noir Fléau n'ont pas hésité à attaquer la Tour Blanche elle-même, après la capture de leur chef. Idem pour Gaïri Amalassan. Nous nous souvenons trop des forces de Loghain dévastant notre pays pour accepter qu'elles reviennent afin de le sauver.
Vous n'avez rien à craindre de semblable.
Lelaine jeta à Loghain le regard dont elle aurait gratifié un chien féroce désormais dressé.
Loghain ne rêve plus de gloire, simplement de compenser avec ses faibles moyens le mal qu'il a commis. De toute façon, je doute que ses partisans répondraient à son appel, après qu'il eût été conduit dans une cage à Tarvalon où on l'a apaisé.
L'Aes Sedai eut un rire de gorge auquel les Altariens finirent par faire écho, pas tout de suite et sans grande conviction. Loghain, lui, ne broncha pas plus qu'une statue. Avisant enfin Nineveh, dans l'encadrement de la porte, Lelaine fronça les sourcils. En plus d'une occasion, elle avait eu avec l'ancienne sage-dame une conversation courtoise, et ne tarissait pas d'éloges sur ses découvertes et celles d'Elaine. Mais elle restait capable, comme toute Aes Sedai, de remettre promptement à sa place une acceptée qui faisait un faux pas. Nineveh s'inclina et fit un petit geste avec sa chope vide.
« Pardonnez-moi, Lelaine Sedai. Je dois la rapporter aux cuisines. »
Avant que la sœur ait pu dire un mot, l'ancienne sage-dame sortit de l'auberge à la vitesse de l'éclair. Dans la rue, elle ne vit plus trace de Mirel. Une bonne chose, car elle n'était pas d'humeur à subir un sermon sur le sens des responsabilités, sur l'équanimité, ou sur une bonne dizaine d'autres absurdités. Coup de chance encore plus notable, Suan était à moins de 30 pas d'elle. Au milieu de la rue, elle se tenait face à Gareth Bryne, et la foule s'écartait pour les contourner. Comme Mirel, Suan ne portait aucun stigmate du désastre de la veille. Si guérir n'avait pas été si simple pour elle, les sœurs auraient sans doute respecté davantage le monde des rêves. Nineveh approcha de l'ancienne chère d'Amerline.
Quel est le problème avec toi, femme ?
Lança Bryne à son interlocutrice. Insensible à la sueur qui ruisselait sur son front, les pieds bien plantés dans le sol et les poings plaqués sur les hanches, Le seigneur dominait de sa tête grisonnante le visage apparemment juvénile de Suan.
Je te félicite à propos de mes chemises qui n'ont jamais été aussi douces. Et voilà que tu montes sur tes ergots. J'ai aussi dit que tu avais l'air guillerette. Rien qui justifie une guerre ouverte, non? C'est un compliment, même s'il n'avait rien de fleuri.
Un compliment?
Maugréa Suan, levant ses yeux bleus sur l'homme.
Je n'en veux pas de tes compliments.
Tu jubiles parce que je suis obligé de repasser tes chemises, voilà tout.
Gareth Bryne, tu es encore plus mesquin que je l'aurais cru. Quand ton armée se mettra en marche, espères-tu que je te suivrai afin de quémander toujours plus de tes fichus compliments? Et cesse donc de m'appeler femme. On dirait que tu parles à ton chien.
Une veine se mit à battre sur la tempe de Bryne.
Je suis content parce que tu tiens ta parole, Siwan. Et si cette armée se met un jour en marche, j'espère que tu continueras. Je n'ai jamais exigé que tu prêtes ce serment. Tu as choisi de le faire pour échapper à la responsabilité de tes actes. Mais tu ne comptais pas devoir l'honorer, pas vrai? Puisqu'on parle de mon armée, qu'as-tu entendu, tandis que tu te prosternais devant les Aes Sedai pour leur baiser les pieds?
En un clin d'œil, Suan passa d'une rage brûlante à un calme glacial.
Mon serment ne me force pas à espionner pour toi.
On aurait cru voir une jeune Aes Sedai, le dos bien droit et le regard arrogant. Une sœur qui n'aurait pas manié le pouvoir depuis assez longtemps pour que son visage soit sans âge.
Donc je n'espionnerai pas. Gareth Bryne, tu es au service du hall de la tour. Ça, c'est ton serment. Ton armée se mettra en route quand le hall en aura décidé ainsi. Attends tes ordres et obéis quand on te les donnera.
Bryne changea lui aussi d'attitude en un éclair.
Tu serais une ennemie de valeur, une épée à la main.
Il eut un petit sourire admiratif.
Bien meilleur comme adversaire que...
Bryne se rembrunit.
Le hall, dis-tu? Eh bien, fais savoir à Sheriam qu'elle devrait cesser de m'éviter. Ce qui devait être fait ici a été accompli. Dis-lui qu'un chien-loup gardé en cage ne vaut guère mieux qu'un cochon, lorsque les loups se montrent. Je n'ai pas enrôlé ces hommes pour qu'ils soient vendus sur un marché.
Après avoir salué Suan de la tête, le seigneur s'éloigna à grandes enjambées. L'ancienne chère d'Amerline le regarda, le front plissé.
« De quoi parliez-vous ? »
lança Nineveh, faisant sursauter Suan.
« Ça ne te regarde pas. »
Furieuse, Suan tira sur sa robe. À croire que Nineveh avait fait exprès de la surprendre, mais cette femme prenait tout pour une offense personnelle.
« Oublions ça, alors. »
dit Nineveh, décidée à ne pas se laisser détourner de son objectif.
« En revanche, j'entends étudier un peu en ce jour. »
Quitte à en crever, elle ferait quelque chose d'utile aujourd'hui. Suan ouvrit la bouche, mais elle la devança.
« Non, je ne peux pas me rabattre sur Marianne. Et pour le moment, ce n'est pas elle qui m'intéresse. Depuis que j'ai découvert que quelque chose en toi pourrait être guéri, tu m'as laissé t'approcher deux fois seulement. Aujourd'hui, je veux que tu me consacres du temps. Si tu refuses, je dirai à Sheriam que tu as désobéi à son ordre. Je jure que je le ferai. »
Un moment, Nineveh craignit que Suan lui réponde « Chiche ».
Cet après-midi, alors. Ce matin, j'ai beaucoup à faire. Sauf si tu penses que tes recherches sont plus importantes qu'aider ton ami de Deux-Rivières.
Nineveh approcha encore. Dans la rue, personne ne leur accordait d'attention, mais elle baissa quand même la voix.
Que mijote-t-elle à son sujet? Tu répètes chaque jour que les sœurs n'ont pas encore pris de décision, mais à force, elles ont dû y arriver.
Si c'était le cas, Suan le saurait, qu'elle ait été tenue informée ou non. Léane déboula soudain et la question de Nineveh se perdit dans un trou noir. Comme des tigresses, les deux femmes se défièrent du regard, prêtes à bondir. Une admirable comédie.
« Alors ?»
lâcha Suan entre ses dents serrées.
« J'ai essayé de les dissuader, »
feula Léane, toute griffe dehors.
« Mais elles ne m'ont pas écouté assez pour ne serait-ce qu'envisager cette possibilité. Tu ne rencontreras pas les matriarches cette nuit. Par les entrailles de 1000 poissons pourris !»
s'écria Suan. Puis elle se détourna et s'éloigna à toutes jambes dans la direction opposée à celle que prenait Léane. De rage, Nineveh faillit enlever les bras au ciel. Parler comme si elle n'avait pas été là, ou comme s'il ne savait pas de quoi il s'agissait. L'ignorer ainsi. Suan aurait intérêt à se montrer cet après-midi, sinon il lui en cuirait.
Ces deux-là devraient être confiés à Tiana pour qu'elle en flanque une bonne correction.
Entendre une voix dans son dos fit sursauter Nineveh. Prendre comme ça les gens par surprise, quelle horreur! Suivant d'abord Suan du regard, puis Léane, Lelaine vint se placer à côté de Nineveh. Il n'y avait pas trace de Loghain, de Bourine, ni des trois nobles.
Elles ne sont plus ce qu'elles étaient, bien sûr. mais on pourrait espérer qu'elle sache encore se tenir. Si elle finisse par se crêper le chignon dans la rue, ça n'apportera rien de bon. Parfois, les gens se prennent un rebrousse-poil sans le vouloir vraiment,
dit Ninevé. Avec les efforts que produisaient Léane et Suan pour entretenir leur mascarade, elle méritait bien son soutien. De plus, elle détestait qu'on la fasse sursauter. Voyant que Lélaine regardait sa main, qui serrait sa natte, l'ancienne sage-dame se força à lâcher ses cheveux. Trop de gens connaissaient ce tic qu'elle avait en vain essayé de perdre.
« Peut-être, ma fille, mais pas quand ça porte atteinte à la dignité des Aes Sedai. Si stupides qu'elles soient en privé, les femmes qui nous servent doivent savoir se tenir en public. »
Que pouvait-on dire contre ça? Rien qui ne soit pas une source d'ennui.
Pourquoi es-tu venu dans la salle où j'exposais Loghain? Je la pensais vide, Aes Sedai. Désolé. J'espère ne pas vous avoir dérangé.
Une réponse idiote. Mais comment avouer qu'elle avait voulu fuir Mirel? Par bonheur, la sœur bleue n'insista pas.
Selon toi, que fera Randall Thor?
Ninevé en scia de confusion.
Aes Sedai, je ne l'ai pas vu depuis 6 mois. Ce que je sais, c'est pour l'avoir entendu ici. Le Hall. Aes Sedai, qu'a décidé le Hall à son sujet?
Lélaine dévisagea Ninevé. Ses yeux noirs, qui semblaient lire les pensées, étaient des plus déstabilisants.
Une remarquable coïncidence. Tu viens du même village que le dragon réincarné. Idem pour cette autre fille, Egwene Alvéré. Elle a suscité de grands espoirs lorsqu'elle est entrée à la tour comme novice. Sais-tu où elle est?
Lélaine n'attendit pas la réponse.
Et les deux autres garçons, Perrin Aibara et Matt Cotton. Eux aussi, ta Vérène, si j'ai bien compris. Et enfin toi, avec tes extraordinaires découvertes en dépit de tes limites. Où que soit Egwene, s'aventure-t-elle aussi dans des territoires que nous n'avons jamais explorés? Comme tu t'en doutes, vous avez été le sujet de nombreuses conversations entre les sœurs. J'espère que c'était pour dire du bien de nous,
souffla Ninevé. On l'avait souvent interrogée sur Rand depuis qu'elle était à Salidar. En particulier depuis le départ de la délégation pour Kaemlyn, certaines Aes Sedai semblaient incapables de lui parler d'autre chose. Mais là, ça semblait différent. C'était l'ennui avec les sœurs. La moitié du temps, impossible de savoir ce qu'elles disaient vraiment, ni ce qu'elles cherchaient.
Espères-tu toujours guérir Siouan et Léane, mon enfant?
Comme si Ninevé avait eu le temps de répondre, Léane soupira.
Parfois je me dis que Mirel a raison. Nous te laissons trop la bride sur le cou. Malgré la valeur de tes découvertes, nous devrions peut-être te confier à Théodrine, jusqu'à ce que tu sois débarrassé du blocage qui t'interdit de canaliser à volonté. Si on pense à ce que tu as fait ces 2 derniers mois, imagine de quoi tu serais capable.
Serrant d'instinct sa natte, Ninevé tenta de placer une objection soigneusement choisie, mais Lélaine ne lui en laissa pas le temps. Et au fond, c'était peut-être mieux ainsi.
Tu ne rends pas service à Suan et à Léane, mon enfant. Il faudrait qu'elles oublient qui elles étaient et ce qu'elles étaient, afin de se contenter de ce qu'elles ont. Aller voir se comporter, la seule chose qui les empêche de se résigner, c'est ton absurde prétention de guérir ce qui ne peut pas l'être. Elles ne sont plus des sœurs. Pourquoi entretenir de faux espoirs?
Il y avait un peu de compassion dans le ton de Lélaine, mêlée à un rien de mépris. Les Nona et Sedai étaient des femmes inférieures, après tout, et la ruse de Suan et de Léane les reléguait sur le dernier barreau de l'échelle. De plus, à Salidar, beaucoup de sœurs tenaient Suan pour responsable des malheurs de la tour, la conséquence de ses machinations quand elle était encore au pouvoir. En toute probabilité, ces Aes Sedai-là estimaient qu'elle avait eu ce qu'elle méritait, au minimum. Cela dit, le châtiment qu'avait mérité Suan, selon ses femmes, compliquait considérablement la situation, car on y recourait rarement. Avant Suan et Léane, aucune femme n'avait plus été jugée et calmée depuis 140 ans, et il y avait bien une dizaine d'années qu'une sœur s'était carbonisée toute seule pour la dernière fois. En principe, une femme calmée tentait de fuir le plus loin possible des Aes Sedai. Si ce malheur lui était arrivé, Lélaine aurait tout fait pour oublier qu'elle avait été un jour une sœur. Dans le cas présent, elle aurait aimé occulter ce que Léane et Suan avaient été, et ne plus penser à tout ce qu'on leur avait pris. Pour les Aes Sedai de Salidar, considérer les deux femmes comme des personnes normales incapables de canaliser aurait été bien plus confortable.
Shiryam Sedai m'a donné la permission d'essayer,
dit Ninevé, aussi fermement qu'elle l'osait face à une sœur. Lélaine la regarda dans les yeux jusqu'à ce qu'elle finisse par baisser la tête. Ses phalanges blanchirent sur sa natte avant qu'elle la lâche, mais rien ne transparut sur son visage. Pour une acceptée, défier du regard une Aes Sedai était une pure folie.
Nous sommes toutes stupides de temps en temps, petite. Mais une femme avisée limite ses accès de faiblesse. Puisque tu sembles avoir fini ton petit déjeuner, tu devrais te débarrasser de cette chope, puis te trouver quelque chose à faire avant que ton inaction te vaille des ennuis. As-tu jamais envisagé de te couper les cheveux très courts? Aucune importance. Allons, file.
Ninevé esquissa une révérence, mais Aes Sedai lui tourna le dos à la vitesse de l'éclair. Ne se sentant plus observé, Ninevé foudroya du regard les omoplates de la sœur. Se couper les cheveux? Saisissant sa natte, elle embraqua rageusement la pointe en direction de l'Elaine. Avoir attendu de ne plus rien risquer pour exprimer sa colère la fit enrager. Mais si elle n'avait pas agi ainsi, ça lui aurait valu un stage au lavoir avec, avant, un détour par le bureau de Tiana. 2 mois passés à Salidar à ne rien faire. Oui, à ne rien faire, malgré toutes les informations qu'Elaine et elle se tiraient à Mogadien. 2 mois à vivre avec des Aes Sedai, qui se contentaient de jacasser et d'attendre, tandis que le monde courait à sa perte. Et l'Elaine lui parlait de couper ses cheveux. Ninevé avait traqué la Janoire. Faite prisonnière, elle s'était échappée, puis elle avait capturé une rejetée, mais ça les sœurs l'ignoraient. Aider la panarche du Tarabon à récupérer son trône, si brièvement que ce fût. Et voilà qu'elle restait ici les bras ballants, à glaner des louanges imméritées à propos des secrets qu'elle arrachait à Mogadien. Se couper les cheveux? Pour le bien que ça lui aurait fait, elle aurait pu tout autant se tondre le crâne. Ninevé aperçut Dagdara Finchet, qui se frayait un chemin dans la foule. Plus grande que la plupart des hommes et aussi large d'épaules que plus d'un, elle n'avait aucun mal à se dégager le chemin. Voir la sœur jaune ne fit rien pour calmer Ninevé. Si elle était restée à Salidar, c'était en partie pour étudier sous la coupe des sœurs jaunes, car elles en savaient plus long que n'importe qui sur la guérison. Si c'était vrai, elle n'était pas prête à partager leurs connaissances avec une vulgaire acceptée. Selon elle, ces sœurs-là auraient dû se réjouir qu'elle ait l'ambition de guérir toutes les maladies et toutes les blessures, mais il n'en était rien. Si Shiria n'était pas intervenue, Dagdara l'aurait condamnée à briquer des parquets du matin au soir. Et Nisao Dachen, une très petite sœur jaune aux yeux de tueuse, refusait de lui adresser de nouveau la parole tant qu'elle n'aurait pas renoncé à altérer la configuration de la trame. Pour ne rien arranger, tout en Ninevé lui criait qu'une tempête se préparait, plus imminente que jamais. Pourtant, il n'y avait toujours pas un nuage dans le ciel, et le soleil brûlant continuait à la narguer. En marmonnant, l'ancienne sage-dame jeta la chope dans une charrette à bois de passage et se mit en mouvement. Tant que Mogadien ne serait pas disponible, marcher serait la meilleure chose à faire. Impossible de dire pendant combien de temps. Une matinée perdue allait s'ajouter à une longue liste de journées gaspillées. Pas mal d'Aes Sedai sourirent à Ninevé. Grâce à sa ruse qui consistait à leur rendre ce sourire puis à presser le pas, comme si une tâche urgente l'attendait, la jeune femme évita tout interrogatoire sur les prochaines merveilles qu'il convenait d'attendre d'elle. Dans ses dispositions présentes, elle aurait risqué de dire ce qu'elle pensait, ce qui aurait été suicidaire. Se tourner les pouces à longueur de semaine, lui demander à elle ce que ferait Rand, lui suggérer de se couper les cheveux. Aes Sedai de malheur. Bien sûr, il n'y eut pas que des sourires. Non contente de la regarder comme si elle était transparente, Nisao faillit tout simplement la renverser. Montée sur un hongre rouant, une Aes Sedai aux cheveux clairs et au menton en galoche la foudroya du regard lorsqu'elles se croisèrent. Ninevé ne reconnut pas cette sœur. La robe de soie grise qu'elle portait était immaculée, mais la cape de voyage pliée sur le devant de sa selle la classait dans la catégorie des nouvelles arrivantes. Montée sur un fier cheval de guerre, le champion qui la suivait semblait très mal à l'aise. Or, les champions n'étaient jamais gênés ainsi, sauf peut-être lorsqu'ils venaient se joindre à une rébellion contre la Tour Blanche. Misère. Même les renforts arrivaient juste à temps pour lui taper sur les nerfs. Cerise sur le gâteau, Ninevé croisa Uno, le guerrier balafré au crâne rasé à l'exception d'un toupet. Un colosse borgne, dont l'œil manquant était caché par un bandeau où était peint un globe oculaire rougeoyant qui glaçait les sangs. Cessant de souffler dans les bronches d'un jeune soldat rouge de honte, tenait par l'abri d'un cheval, une lance attachée à la selle, le vétéran adressa un sourire chaleureux à l'ancienne sage-dame. Enfin, un sourire qui aurait été chaleureux sans l'horrible bandeau. La grimace de Ninevé fit sursauter le pauvre militaire, qui recommença à agonir sa victime d'insultes, histoire de se donner une contenance. Ce n'était pourtant pas Uno, ni son bandeau, qui avait retourné l'estomac de la jeune femme. Loyal, ce brave type les avait escortés jusqu'à Salidar, Elaine et elle. Et il avait même juré de voler des chevaux, les emprunter, dans son vocabulaire, si elle désirait quitter le village. Une promesse qui ne tenait plus. La manche de sa veste noire ornée d'un galon doré, Uno était désormais un officier qui entraînait la cavalerie lourde au service de Gareth Bryne. Bref, un homme bien trop occupé pour se soucier encore de l'ancienne sage-dame. Non, c'était faux. Si elle avait voulu partir, il lui aurait procuré des chevaux en quelques heures, et elle aurait quitté la ville avec une escorte de soldats du Chiénard fidèles à Rand et présents à Salidar uniquement parce qu'ils avaient suivi Elaine et elle. Mais pour ça, Ninevé aurait dû reconnaître qu'elle avait eu tort de rester, mentant chaque fois qu'elle avait assuré à Ono qu'elle était très heureuse ici. Se déjuger ainsi était au-delà des forces de la jeune femme. Ono étant resté parce qu'il pensait devoir veiller sur les deux amis de Rand, il risquait d'ailleurs de ne même pas entendre ce qu'elle aurait eu à lui dire. Traversant son esprit à cause d'Ono, l'idée de partir, nouvelle pour Ninevé, déclencha une tempête sous son crâne. Ah! Si Tom et Julie n'étaient pas allés faire les andouilles en Amadicia. Non qu'ils soient partis le cœur léger, fallait-il reconnaître. À l'époque, on pouvait encore croire que les Aes Sedai de Salidar avaient l'intention d'agir, ils s'étaient portés volontaires pour aller jeter un coup d'œil de l'autre côté du fleuve, en Amadicia. Résolus à s'infiltrer jusque dans la capitale, Amador, ils étaient absents depuis plus d'un mois, et ne se remontreraient pas au mieux avant une semaine ou deux. Ils n'étaient pas les seuls éclaireurs en mission, bien entendu. Des Aes Sedai et des champions étaient également partis, mais majoritairement en direction du Tarabon, bien plus loin à l'ouest. Pour le hall, des gesticulations susceptibles de passer pour des initiatives. De plus, attendre le retour de ces espions était une bonne excuse de plus pour ne rien faire. Ninevé regrettait d'avoir laissé partir les deux hommes. Si elle y avait mis son veto, ni l'un ni l'autre ne serait passé outre. Bien qu'il ait eu des jours plus glorieux, Tom était un vieux trouvère, et Julien un pisteur de voleurs de Théar. Deux gaillards compétents, doués en de multiples domaines, et capables de ne pas perdre pied dans les endroits les plus bizarres. Eux aussi avaient escorté les deux femmes jusqu'ici, et si Ninevé avait parlé de partir, il n'aurait pas pipé mot. Devant elle, au moins, parce que dans son dos... Mais Ono, lui, ne se serait pas retenu de râler. Admettre qu'elle avait besoin de ses hommes agaçait au plus haut point Ninevé. Mais comment faisait-on pour voler un cheval sans se faire prendre? Une acceptée rôdant autour des écuries, des enclos ou des lignes de piquet des soldats se serait fait repérer en un clin d'œil. Et si elle se changeait, elle serait reconnue et dénoncée avant d'avoir pu approcher de la queue d'un cheval. Même si un miracle se produisait, on la poursuivrait. Les acceptées qui s'enfuyaient, comme les novices, étaient presque toujours reprises afin de subir un châtiment qui les dissuadait de recommencer. Quand on suivait une formation pour devenir une Aes Sedai, on en avait fini lorsque les sœurs le décidaient, et pas avant. Bien entendu, ce n'était pas la peur d'une punition qui retenait Ninevé. La badine, voire le fouet, ne pesait rien face au risque d'être tué par l'âge noir ou de devoir affronter un rejeté. Le hic, c'était plutôt où aller. Rejoindre Rand à Kemlin et Gwen à Kyrien. D'autre part, Elaine l'accompagnerait-elle? Sûrement, s'elle optait pour Kemlin. Et encore, désirait-elle vraiment agir, ou avait-elle peur qu'on découvre la vérité sur Mogadien? Comparée à ce qui arriverait alors, la sentence visant une fugitive était d'une agréable douceur. Ninevé n'avait atteint aucune conclusion lorsqu'elle tourna un coin de rue et tomba sur la classe de novices d'Elaine. Sur un terrain d'où on avait déblayé les gravats, entre deux maisons au toit de chaume, une vingtaine de femmes en robe blanche assises sur des tabourets disposés en demi-cercle regardait la fille héritière guider deux des leurs durant un exercice. L'aura du Saïdar enveloppait l'enseignante et les deux élèves. Tabilla, une jeune fille aux yeux verts et aux multiples taches de rousseur, et Nicolas, une mince femme aux yeux noirs de l'âge de Ninevé. Les deux novices faisaient maladroitement circuler entre elles une petite flamme qui oscillait et s'éteignait même par moments, lorsqu'une des élèves, pas assez rapide, ne prenait pas assez vite le relais pour la maintenir. Toujours en colère, Ninevé n'eut aucun mal à voir les flux que tissaient Tabilla et Nicolas. Quand Sheriam et les autres avaient fui la tour, 18 novices, Tabilla faisant partie du lot, avaient été subtilisés en même temps. Mais la plupart, dans ce groupe, étaient des nouvelles recrutées depuis que les Aes Sedai s'étaient installés à Salidar. Et une bonne moitié de ces recrues, comme Nicolas, s'avéraient un peu plus âgées que d'habitude pour des novices. Quand Ninevé et Elaine étaient arrivés à la tour, l'ancienne sage-dame se faisant remarquer à cause de son âge avancé et parce qu'elle était une naturelle, les nouvelles novices étaient presque toutes de l'âge de Tabilla. Depuis, sans doute par désespoir, les sœurs avaient étendu leur détection à des femmes qui pouvaient avoir jusqu'à 2 ans de plus que Ninevé. Du coup, on trouvait plus de novices à Salidar qu'il y en avait eu depuis des années à la Tour Blanche. Encouragés par ce succès, les Aes Sedai avaient envoyé des sœurs écumer tout l'Altara, village après village.
Tu aimerais être le professeur de cette classe ?
Ninevé sursauta. Encore quelqu'un qui parlait dans son dos. 2 fois la même matinée. Et dans sa bourse, elle n'avait rien pour soulager ses brûlures d'estomac. si elle continuait à se faire surprendre ainsi, elle finirait par trier des documents pour une sœur marron. La domanie qui venait de lui jouer ce mauvais tour n'était pas une Aes Sedai. À la tour, Théodrine avait déjà reçu son châle. Ici, elle avait été élevée à un statut supérieur à celui d'une acceptée, sans pour autant devenir une sœur. Du coup, elle portait sa bague au serpent à la main droite, pas à la gauche, et arborait une robe verte qui s'harmonisait parfaitement à son teint cuivré. En revanche, elle n'avait pas le droit de choisir un aja, ni de se parer d'un châle.
« J'ai mieux à faire que montrer des trucs à des novices têtus comme des mules. »
Théodrine sourit avec indulgence. Une femme très gentille, vraiment.
« Une acceptée à la tête de pioche pour des novices têtus comme des mules ?»«
Très gentille, oui. D'habitude. »
Quand nous aurons réussi à te permettre de canaliser sans que tu aies envie pour ça de mordre quelqu'un, nous te confierons aussi des novices. Et je ne serai pas surprise que tu montes en grade très vite, une fois cette étape franchie, après toutes tes découvertes. Au fait, tu ne m'as jamais dit comment tu as pris conscience de ton don.
Les naturels découvraient presque tous leurs dons par hasard, développant ainsi une aptitude bien à elles. Pareillement, elles souffraient quasiment toutes d'un blocage qu'elles avaient généré pour dissimuler leur aptitude, souvent à leurs propres yeux autant qu'à ceux des autres. Nineveh resta impassible au prix d'un grand effort. Canalisée à volonté. Montée en grade. Rien de tout ça n'aurait résolu le problème moghédienne, mais elle serait en mesure d'aller où elle voudrait et d'étudier tout ce qu'elle désirerait, sans qu'on lui dise à tout bout de champ que telle ou telle affection ne pouvait pas être guérie.
Les malades se remettaient alors qu'ils n'auraient pas dû. Je me désespérais parce que mes connaissances en herboristerie ne me permettaient pas de sauver un patient. Et voilà qu'ils se rétablissaient sans raison. Eh bien, ça vaut mieux que ce qui m'est arrivé.
Théodrine soupira.
Je pouvais faire en sorte qu'un garçon ait envie de m'embrasser ou non. Mon blocage était lié aux hommes, pas à la colère.
Voyant l'incrédulité de Nineveh, Théodrine éclata de rire.
Eh bien quoi ? C'est aussi une émotion, non ? En présence d'un homme, si je l'aimais beaucoup ou si je le détestais, je devenais capable de canaliser. Si le type m'était indifférent ou en l'absence de mal, j'aurais très bien pu être un arbre en ce qui concernait le Saïdar. Comment t'es-tu sorti de là ?
Demanda Nineveh. Sous la direction d'Elaine, toutes les novices, après la démonstration, travaillaient par paire avec une flamme. Théodrine sourit de plus belle, mais ses joues se teintèrent de rose.
Un jeune garçon d'écurie de la tour, Charel, a commencé à me faire les yeux doux. J'avais 15 ans, et si tu avais vu son sourire. Les Aes Sedai l'ont laissé assister à mes leçons dans un coin, afin que je puisse canaliser. Mais j'ignorais que notre rencontre avait été arrangée par Shiriam. Je ne savais pas non plus qu'il avait une sœur jumelle nommée Marel. Après quelques jours, elle a pris la place de son frère. Quand elle a retiré sa veste et sa chemise durant un de mes cours, le choc a été tel que je me suis évanoui. Mais après ça, mon blocage a disparu.
Nineveh éclata de rire. Impossible de s'en empêcher. Bien qu'elle fût désormais rouge comme une pivoine, Théodrine se joignit à elle de bon cœur.
Théodrine, j'aimerais que ce soit aussi facile pour moi. Quoi qu'il arrive, nous viendrons à bout de ton blocage. Cet après-midi, je dois étudier Suan. Nineveh, tu m'évites. En un mois, tu as seulement honoré 3 de nos rendez-vous. Je veux bien que tu essaies et que tu échoues, mais je ne tolérerai pas que tu te dérobes. Je ne dérobe pas,
répliqua Nineveh, indignée. En même temps, une petite voix dans sa tête demanda si elle ne tentait pas de se cacher la vérité. Les échecs successifs étaient si décourageants. Théodrine trancha sans appel le débat.
Puisque tu as des obligations aujourd'hui, je te verrai demain et tous les jours qui suivront. Sinon, je devrais prendre des mesures. Je n'en ai pas envie, et toi non plus. Mais je veux vaincre ton blocage. Mirel m'a demandé de faire un effort particulier, et j'ai juré de lui obéir.
Presque mot pour mot ce que Nineveh elle-même avait dit à Suan. C'était la première fois que Théodrine faisait usage du pouvoir qu'elle tenait de son statut à part. Encore un effort, et si les choses continuaient comme ça, elle finirait par se retrouver avec Suan devant le bureau de Tiana, attendant de se faire sermonner. Sans attendre de réponse, mais en hochant la tête comme si elle en avait eu une, Théodrine se détourna et s'éloigna, glissant sur le sol plus qu'elle marchait. Un instant, Nineveh aurait presque cru voir un châle sur ses épaules. Et Mirel, en plus du reste, de quoi lui donner envie de hurler. Au milieu de ses novices, Elaine lui sourit fièrement, mais elle haussa les épaules et s'éloigna à son tour, en route pour sa chambre. La journée continuant sur sa triste lancée, elle n'était pas à mi-chemin de sa destination quand Dagdara Finchet, courant comme une folle, la percuta et la fit tomber sur le dos dans la poussière. Courir ainsi, une Aes Sedai. Sans s'arrêter et en lançant de vagues excuses par-dessus son épaule, la solide sœur continua son chemin dans la foule. Ninevé se releva, s'épousta, boitilla jusqu'à sa chambre et claqua la porte derrière elle. Dans la pièce surchauffée, les lits étaient encore défaits, attendant que Mogadien vienne s'en occuper. Contre toute logique, le sens du climat de Ninevé lui souffla qu'un orage de grêle aurait dû être en train de s'abattre sur Salidar. Eh bien, au moins, si ça arrivait, elle ne serait pas dessous. S'étendant sur les draps froissés, elle fit tourner autour de son poignet le bracelet de la dame et laissa son esprit vagabonder. Qu'allait-elle tirer de Mogadien aujourd'hui? Siouan viendrait-elle cet après-midi? Lan allait-il bien? En aurait-elle fini un jour avec son blocage? Allait-elle rester à Salidar? Partir n'aurait pas été vraiment une fuite. Elle serait allée à Kaemlyn pour rejoindre Rand, qui avait besoin de quelqu'un capable d'empêcher sa tête d'enfler démesurément. Ce plan aurait l'adhésion d'Elaine, si seulement l'idée de partir et non de fuir n'avait pas paru si séduisante après que Théodrine lui eût annoncé ses intentions. En principe, une subtile modification des émotions qu'elle percevait à travers la dame aurait dû l'avertir que Mogadien avait fini son travail et qu'elle devait aller la chercher, car la rejetée aimait se cacher lorsqu'elle boudait. Mais la honte et l'outrage brouillèrent les perceptions de Ninevé, et quand la porte s'ouvrit en grand, elle sursauta une nouvelle fois de surprise.
« Ainsi, c'est là que tu es !»
Mogadien leva les mains.
« Regarde, fichu !»
Ninevé ne trouva rien de bien spécial à ses mains de blanchisseuse. Oui, elles n'étaient pas les ridées, mais ça passerait.
« Il ne suffit pas que je doive vivre comme une souillon et obéir comme une servante. Maintenant, je dois m'abaisser à des corvées qui... »
Ninevé obtint le silence en usant d'une technique fort simple. Elle pensa à un coup de badine, à ce qu'on éprouvait quand on en recevait un, puis dirigea cette sensation dans la partie de son cerveau où elle stockait les émotions émises par Mogadien. La rejetée écarquilla les yeux, serra les dents et pinça les lèvres. Le coup n'était pourtant pas très puissant. Simplement un petit rappel à l'ordre.
« Ferme la porte et viens t'asseoir, »
dit l'ancienne sage-dame.
« Tu feras le lit plus tard. Nous allons avoir une leçon. Je suis habitué à bien mieux que ça. »
maugréa Mogadien en obéissant.
« Un type qui travaillait de nuit à Tojar était mieux traité que moi. Sauf erreur de ma part, un travailleur de nuit, où que ce soit, n'est pas menacé d'une sentence de mort. Un seul mot de toi et nous révélerons ton identité à Shiryam. »
Du bluff, bien entendu. À cette seule éventualité, l'estomac de Ninevé se retournait. Pourtant, une terreur aveugle circula entre le collier et le bracelet. De quoi admirer, ou presque, l'impassibilité de Mogadien. En proie à une telle angoisse, Ninevé se serait roulé par terre en hurlant de peur.
« Que veux-tu que je te montre ?»
demanda la rejetée. Elaine et Ninevé devaient toujours lui dire ce qu'elle désirait. Sauf quand elle poussait la rejetée à bout, un traitement qui n'était pas très loin de la torture, elle ne lâchait jamais rien volontairement.
« Nous allons essayer quelque chose que tu n'es pas très doué pour enseigner, dirait-on. Comment détecter un homme capable de canaliser le pouvoir ?»
Jusque-là, c'était le seul point que les deux amis n'avaient pas réussi à assimiler vite. Et si Ninevé décidait de partir pour Kaemlyn, ça pouvait lui être utile.
« Ce n'est pas facile, surtout en l'absence de mâles qui sachent canaliser. Dommage que tu n'aies pas pu guérir Loghain. »
Sans aucune trace de moquerie dans son ton ou sur son visage, Mogadien jeta pourtant un regard inquiet à Ninevé, puis elle enchaîna.
« Nous pouvons quand même revoir les tissages. »
La leçon se révéla des plus ardues, mais ses cours n'étaient jamais faciles, même quand Ninevé, une fois les tissages devenus clairs, n'avait aucun mal à les retenir. Sans l'autorisation de Ninevé, Mogadien ne pouvait pas canaliser le pouvoir. En réalité, il fallait même que l'ancienne sage-dame guide sa prisonnière. Mais lors d'une leçon, surtout sur une nouveauté, Mogadien devait prendre les commandes pour modeler les flux comme il convenait. Souvent, tout ça s'en mêlait et il fallait recommencer. C'était pour cette raison, principalement, qu'Elaine et Ninevé ne pouvaient pas apprendre chaque jour des dizaines de choses inédites. Dans le cas présent, Ninevé avait une vague idée de la configuration des flux. Mais ce subtil entrelac des cinq pouvoirs aurait fait passer la guérison pour un jeu d'enfant, et le dessin se modifiait à la vitesse de l'éclair. Selon Mogadien, sa complexité expliquait pourquoi ce tissage n'était pas très utilisé. D'autant que le maintenir longtemps finissait par vous flanquer une terrible migraine. Ninevé s'étendit de nouveau sur son lit et travailla quand même d'arrache-pied. Si elle rejoignait Rand, elle aurait besoin de cette technique, et ça arriverait peut-être plus vite qu'elle le croyait. Entretenant sa colère en pensant de temps en temps à Lan ou à Théodrine, elle tissa les flux toute seule. Tôt ou tard, Mogadien devrait répondre de ses crimes, et si elle s'habituait à canaliser par son intermédiaire, Ninevé se retrouverait fort dépourvue. Elle devait vivre et travailler en tenant compte de ses limites. Théodrine trouverait-elle un remède contre son blocage? Puisque Lan était sûrement en vie, il fallait qu'elle le rejoigne. La migraine arriva, battant à ses tempes. Mogadien plissa les yeux et se massa de temps en temps la nuque. Mais sous la peur que le bracelet transmettait à Nineveh, se tapissait ce qui semblait être de la satisfaction. Même quand on ne voulait pas enseigner, ça devait rester une source de plaisir. Cela dit, savoir que la rejetée avait une réaction si humaine n'était pas vraiment plaisant. Alors que Mogadien murmurait par intervalles des presque et des pas tout à fait plus ou moins encourageants, la leçon dura jusqu'à ce que la porte s'ouvre à la volée. Nineveh se leva d'un bond. Chez une autre femme, la terreur de Mogadien aurait été accompagnée d'un hurlement.
« Tu en as entendu parler, Nineveh ?»
demanda Elaine en entrant.
« Une émissaire d'Elaïda vient d'arriver !»
Nineveh oublia la tirade à laquelle la fille héritière aurait eu droit pour l'avoir encore fait sursauter. À dire vrai, elle en oublia jusqu'à sa migraine.
« Une émissaire de la tour, tu es sûr ?»« Bien sûr ! Tu crois que je me fatigue à colporter des ragots ? Tout le village est bouleversé !»« On se demande bien pourquoi !»
marmonna Nineveh. Le mal de tête était de retour, et toute sa réserve d'herbe n'aurait rien pu faire contre ses brûlures d'estomac. Elaine apprendra-t-elle un jour qu'on devait frapper à une porte ? Les mains pressées sur le ventre, Mogadien avait le teint verdâtre.
Nous les avons avertis qu'Elaïda savait pour Salidar. Elles nous ont peut-être cru,
fit Elaine en s'asseyant au pied du lit de Nineveh.
Et peut-être pas. Mais là, elles ne peuvent plus douter. Elaïda sait où nous sommes, et probablement aussi ce que nous préparons. Tous les domestiques peuvent être ses agents. Et qui sait, certaines sœurs aussi. J'ai aperçu l'émissaire, Nineveh. Des cheveux clairs et des yeux bleus qui pourraient faire geler le soleil. Selon Faolain, il s'agit d'une sœur rouge nommée Tarnafeir. Un des champions qui montait la garde l'a escortée jusqu'au village. Quand elle regarde quelqu'un, il pourrait tout aussi bien s'agir d'une pierre, pour tout l'effet que ça lui fait.
Nineveh se tourna vers Mogadien.
La leçon est finie pour l'instant. Reviens dans une heure, tu pourras faire les lits.
Elle attendit que la rejetée soit sortie, son indignation palpable, puis reprit.
Quel message apporte cet émissaire ? On ne m'a pas mise au courant. Toutes les sœurs que j'ai croisées se posaient la même question. Quand on a dit à Tarna que le hall de la tour allait la recevoir, il paraît qu'elle a éclaté de rire. Pas parce qu'elle était amusée, cependant. Tu crois que les Aes Sedai pourraient décider de rentrer au bercail ?
Avança Nineveh, incrédule.
Elaïda les forcerait à parcourir à genoux les quatre dernières lieues, et les 1000 derniers pas sur le ventre. Et même si l'usurpatrice réagissait autrement, les invitant à rentrer chez elle, ou les attendrait un bon dîner, tu penses qu'elle pourrait oublier l'histoire de Loghain ? Les Aes Sedai pourraient oublier n'importe quoi, s'il s'agit de réunifier la tour. N'importe quoi ! Tu les comprends moins bien que moi, parce qu'il y en avait une au palais durant toute mon enfance. Le tout est de savoir ce que Tarna dit au hall, et ce que le hall lui répond.
Nineveh se frotta nerveusement les bras. Elle n'avait aucune réponse, seulement des espoirs. Et son don pour le climat lui soufflant que la tempête qui n'existait pas martelait à présent les toits de Salidar. Ce sentiment-là, elle le garda pendant des jours.